9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bien le bonjour, auditrices, auditeurs, ravis de vous retrouver pour une petite heure de droit. Mais avant de lancer officiellement la foire aux questions, mon cher Philippe, évoquons rapidement l'actualité de la semaine. Alors une semaine au cours de laquelle on a vu un ancien président de la République condamné à de la prison. De la prison pour un ancien président de la République, mais c'est navrant. Alors c'est sûr, hein, c'est pas en Russie ou en Chine qu'on pourrait voir un truc pareil. Ils ont trop le respect de la fonction présidentielle. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas mieux qu'une démocratie musclée. Alors on aime ou on n'aime pas mon idée, mais pour ma part, je serais assez d'accord pour qu'on accorde à celui qui a été un ancien président de la République une immunité à vie. Alors, sauf évidemment pour trahison, meurtre ou assassinat. Mais pour le reste, on s'en fout de ce qu'il a pu faire. Le type, il était président de la République. Quel est l'intérêt d'être président si tu peux pas faire ce que tu veux? Mais on a aussi vu un ancien ministre de la Défense, monsieur Philippe Léotard, 78 ans, condamné pour des faits de 1995. Alors, on aime ou on n'aime pas mon idée, mais pour ma part, je serais assez d'accord pour qu'on accorde l'immunité à tous ceux qui ont été ministres dès lors qu'ils ont atteint, je sais pas moi, l'âge de 65 ans par exemple. 78 ans pour Philippe Léotard. Quand même, qu'est-ce qu'on vient faire chier un mec de 78 ans? On n'a pas de respect pour les chébanés dans ce pays. Mais le seul qui aurait dû être condamné malgré ses 91 ans et qu'il ne l'a pas été,
Balladur,
c'est Édouard Balladur. La justice est parfois injuste. Il aurait dû être condamné, alors pas pour cette affaire, on s'en fout de l'affaire Karachi, mais tout simplement parce qu'il a fait preuve à l'époque de haute trahison envers Jacques Chirac. Souvenez-vous, Édouard Balladur, hein, le premier ministre de Mitterrand, est là. C'est le drame. Il se présente contre qui? Contre Jacques Chirac, trahison ultime. D'ailleurs, le nom de Balladur est devenu depuis cet événement synonyme de trahison. Et ce, dans toutes les langues du monde. On entend souvent les gens déclarer « Oh, il m'a Balladur !» Traduction, il m'a trahi. Et rien que pour avoir trahi Jacques Chirac, il méritait cette condamnation. Mais cette semaine a également été marquée par ces rivalités entre bandes de jeunes qui tournent au drame. Enfin, je devrais plutôt dire entre bandes de jeunes cons de différents quartiers. Le seul point commun entre ces quartiers ou ces cités, c'est l'origine des types. Alors là, on est entre nous, mais on peut officiellement déclarer que ces jeunes, c'est rarement Stéphane qui se querelle avec Eric. Rarement, voire jamais. Ce sont souvent des gens de chez moi. Hey, « Eh, mais qu'est-ce que tu fais dans ma cité ? Hein, qu'est-ce que tu fais dans ma cité sur mon banc ?»« Je fais juste mon travail », aurait pu répondre ce journaliste photographe qui n'en a pas eu le temps puisqu'il a été tabassé et se trouve actuellement dans le coma. Allez, à vous la parole, 01 53 48 3000. Posez toutes vos questions émissions sous le contrôle de notre sage à nous, monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Je suis très bien sérieux ce matin, Maître Serran.
Je suis sérieux, tout
ouais,
le temps.
Ça a manqué un petit peu de...
Non, il y a des fois où j'ai plus envie de rire.
Ah ouais.
Ouais, c'est comme ça.
Il n'y a pas que Balladur qui a trahi, hein. Sarkozy a trahi aussi. Voilà.
Oui.
Et Léotard a trahi aussi.
Il a trahi, Sarkozy a trahi. Pour autant, je me dis que quand on a été chef de l'État, se retrouver devant des magistrats, c'est pas digne de ce pays, c'est tout. Après, c'est pour ça, encore une fois, enfin, vous connaissez ma position.
Bah oui,
c'est une démocratie musclée. Bah, j'ai été chef de l'État, maintenant on vient pas me gratter les poils du cul.
Ah, ben voilà, quand vous voulez, Maître Serran, oui, on vous retrouve.
Oui, bah, on en a parlé tout à l'heure des poils de cul.
Non. On a parlé des implants capillaires.
Ça ressemble fortement à des poils de cul.
Maître Serran, donc, n'induisez pas des... Non, on a parlé des implants capillaires.
C'est vrai.
Et j'ai dit que je vous prendrais bien comme cobaye.
Oui, c'est vrai. C'est gentil d'avoir pensé.
Pour voir comment vous réagissez. Et effectivement, si ça fait ce petit aspect.
D'accord, et si ça le fait? Donc j'ai des poils de khalsa sur la tête. On fait quoi ensuite?
Vous mettez une casquette, un bonnet.
Ah bon?
Oui.
D'accord, ok. Merci en tout cas d'avoir pensé à moi. C'est bien gentil.
Je jure. On va le faire, on va le filmer. On va suivre l'évolution, Maître Serran. Et on va voir si effectivement. Mais non, on va pas laisser Maître Serran tranquille. J'ai des projets pour Maître Serran.
Ouais, des projets de cheveux.
Non, une star des réseaux sociaux, Maître Serran. Non, on va parler d'un sujet qui est très peu évoqué. C'est la fausse déclaration aux assurances. Hein. Souvent, avant de vous laisser souscrire un contrat d'assurance de prêt, votre assureur vous demande différentes informations afin de mesurer les risques auxquels vous êtes exposé, votre profession, votre état de santé, si vous pratiquez du sport, où vous habitez. Et en fonction de vos réponses, il va ajuster le tarif. Qu'est-ce qui se passe, Maître Serran, si on fait une fausse déclaration, notamment sur son état de santé, je pense à des gens qui ont des maladies chroniques hein, et qui sont en phase de rémission, par exemple, et qui pensent qu'ils auront un tarif plus avantageux s'ils dissimulent cette information à la compagnie d'assurance.
Mais vous savez, le droit est assez particulier. C'est-à-dire que si vous jouez la carte de la transparence, ce qu'on peut être en droit d'exiger de la part des uns et des autres, bah, souvent, votre honnêteté intellectuelle, eh ben, ça paye pas, et en particulier à l'égard des établissements bancaires. Obtenir un crédit n'est pas si simple que ça. Et puis, quand vous contractez un crédit, on a effectivement donc ces assurances qui se mettent en marche à partir du moment où, alors, s'il y a un décès, si vous tombez malade, donc vous êtes bien content effectivement que l'assurance puisse prendre en charge les mensualités de votre crédit. Donc, vous avez un questionnaire sur X pages où on va décortiquer un peu votre situation et toute une série de questions et de pathologies. Puis il faut cocher oui ou non. Est-ce que vous avez eu telle ou telle maladie? Est-ce que vous avez eu tel ou tel suivi? Depuis combien de temps? Et ainsi de suite. Donc, la nature humaine étant ce qu'elle est, et les gens sont pas fous, on se dit que si je coche un maximum de cases pour dire, bah oui, j'ai une pathologie alors qu'il date de temps, ou alors il y a un risque de... Le raisonnement étant de se dire qu'il est peu probable que, d'abord, que ce prêt vous soit accordé, puis dans l'hypothèse où le prêt vous serait accordé, vous allez avoir évidemment des conditions financières moins intéressant,
moins favorable, oui.
Et parfois extrêmement drastique. Donc, encore une fois, la nature humaine étant ce qu'elle est, on peut parfois parler de mensonges entre guillemets par omission.
Non, donc,
mais on ne donne pas toutes, on ne veut pas donner toutes les informations. Alors, ça peut passer. Comme dirait l'autre, là, comme une lettre à la poste, hein, ça peut passer, et puis vous pouvez terminer votre crédit sans que personne se soit rendu compte qu'à un moment ou à un autre, vous avez peut-être fauté ou vous n'avez peut-être pas dit toute la vérité. Sauf que à partir du moment où malheureusement il vous arrive ce pépin, alors soit vous tombez malade, soit vous décédez tout simplement, et en l'occurrence dans la décision qui a été rendue, donc qui date de décembre 2020, c'est une cour d'appel qui vient rappeler les règles en la matière. Alors, pour poser un peu le problème, on a un premier jugement qui dit que vous avez une personne qui décède, sa femme contacte la compagnie d'assurance, et puis le tribunal dit, bon, bah effectivement, la personne est décédée pour une pathologie qui n'était pas évoquée dans les conditions remplies par les uns et les autres, et donc le tribunal de première instance oblige l'assurance, la banque à mettre en avant donc l'assurance et donc à prendre en charge les frais. En l'occurrence, il s'agissait d'un prêt professionnel. Bon, l'intéressé est content, la banque évidemment va interjeter appel et puis patatras. Ça se dit encore ça, patatras ou pas?
Non, je Macron pas. Le dit, mais ah bon, c'est pas un signe de modernité.
Ouais, hein. On est d'accord, hein. D'accord. Donc bon, donc ouais. Alors la cour d'appel va infirmer la décision au motif que l'intéressé, donc en l'occurrence un homme, alors lui est décédé en l'occurrence d'un cancer des poumons, mais on va même pas le tacler là-dessus. Ce type-là donc avait un problème donc d'hypertension, donc et il en est mort. Et
Il est pas mort de son cancer des poumons.
Non, mais c'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'il est pas mort. Il est mort. Enfin, il a déclaré un cancer du poumon, mais il est même pas mort de ça. Donc le médecin atteste en disant, écoutez, voilà les raisons du décès. Et puis la banque, mais comme dans toutes les histoires de prêts, la banque va décortiquer le dossier médical de l'intéressé et puis se rendre compte que ce monsieur avait un problème d'hypertension depuis X années, qu'il avait un traitement quotidien. En gros, qu'il ne pouvait pas ne pas savoir qu'il devait à minima déclarer donc cette pathologie, et donc on va le tacler là-dessus, c'est en disant mais il a menti. À partir du moment où il a menti, moi établissement bancaire, moi compagnie d'assurance, je ne suis plus tenu par ce contrat, et donc je vais refuser de prendre en charge le crédit de l'intéressé. Donc c'est vrai que c'est, alors les conséquences évidemment financières sont dramatiques. En l'occurrence, il s'agissait d'un prêt professionnel, mais ce raisonnement va s'appliquer pour le prêt classique, pour un prêt immobilier par exemple. Donc faites évidemment très attention à cette histoire, c'est-à-dire qu'on peut se dire bon bah je vais pas tout déclarer et puis encore une fois je peux passer entre les mailles du filet, sauf que le jour où vous avez un gros problème de santé ou alors le jour où vous décédez, la banque va décortiquer le dossier médical, elle va décortiquer les conditions de votre crédit et puis croyez-moi qu'ils sont suffisamment formés et briefés pour vous refuser une prise en charge au moindre détail. Donc c'est terrible, mais quand on lit la décision de la cour d'appel, on a l'impression que encore une fois la moindre omission, le moindre mensonge, encore une fois, on peut appeler
alors,
ça.
Là on parle de la santé, mais est-ce que si vous faites une fausse déclaration, notamment ça arrive pour les obtentions de crédit sur la nature de vos ressources et le montant de vos ressources, est-ce que c'est du même
même on peut aller même au-delà. Vous savez, il y a beaucoup de en matière de crédit, il y a une sorte de mode où vous passiez par l'intermédiaire de mandataires qui très souvent vous disaient mais il y a pas de difficulté, je trouverais bien un établissement bancaire donc pour vous accorder crédit.
C'était quand même très facile d'obtenir un crédit à l'époque.
Mais complètement, sauf que quelques années après, la difficulté revient en pleine poire parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de ces mandataires, alors avec l'accord implicite ou pas du premier concerné, c'est-à-dire de celui qui sollicite le crédit, on s'est rendu compte que les documents qui étaient fournis aux établissements bancaires n'étaient pas forcément de vrais documents. Donc vous aviez des fiches d'impôts bidons, vous aviez des bulletins salaires bidons. Bon alors, évidemment, quand le type vous appelle et vous dit le crédit a été accordé banco, vous êtes content, il n'y a pas de difficulté. Mais encore une fois, quand il vous arrive la moindre difficulté ou alors quand les établissements bancaires se penchent, il y a un moment où ils ont commencé vraiment à décortiquer très sérieusement les documents. Et à partir du moment où on se rend compte que les documents produits sont des faux, le deal, c'est quoi? Le deal, c'est dire, bon, vous êtes gentil, on vous a pris la main dans le sac, laissez tomber, on en reste là. C'est-à-dire que vous perdez tout, il n'y aura pas de prise en charge, il n'y aura rien. Si l'établissement bancaire veut aller au-delà et faire le pénible, il peut bien évidemment engager une plainte contre l'intéressé, tout simplement pour faux et usage de faux. Donc vous êtes à la fois matraqué par la justice, vous et éventuellement avec la complicité du mandataire, éventuellement, et matraqué par votre banque, puisque vous perdez tout à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, et c'est un pays quand même. Alors oui, il y a un moment où on accordait des crédits assez facilement, mais avant cette petite période où les banques étaient entre guillemets sympas, il y a eu avant cette période et il y a après, où les banques sont très compliquées, c'est-à-dire qu'il fallait verser 500 pour obtenir 100. Donc voilà, on a eu tendance à essayer de s'adapter en trichant, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais les établissements bancaires sont depuis vraiment 2-3 ans sans pitié. Alors maintenant, ils regardent de très près les documents que vous présentez. Il y a eu aussi une sorte de facilité de la part des établissements bancaires, c'est-à-dire que pour un oui, pour un non, vous accordez un crédit en jetant un œil vite fait sur votre fiche de paye et votre avis d'imposition. C'est plus le cas maintenant, donc ils décortiquent ça de manière très précise. Mais les problèmes arrivent aujourd'hui, encore une fois, parce qu'évidemment un crédit c'est très souvent à minima, on va dire, sur 10 ou 15 ans. On parle de crédit, pas d'un crédit à la consommation, parle de crédit immobilier. Donc les emmerdes, entre guillemets, arrivent parfois maintenant, et je peux vous assurer que les banques qui ont parfois eu, je le redis, une sorte de complicité objective, alors évidemment, vont écarter ça, et à partir du moment où le moindre document serait considéré comme faux, votre position tombe immédiatement et vous vous retrouvez avec tous les emmerdes du monde et parfois même avec des emmerdements judiciaires, je le redis, parce que ça s'appelle un faux et usage de faux, mais en dehors de ces emmerdements judiciaires, vous allez avoir des emmerdements financiers et il n'y a pas une assurance de ces banques-là donc qui viendra à votre aide ou à votre rescousse.
J'ai vu, Maître Serran, que le droit distinguait les fausses déclarations volontaires et involontaires.
Oui, mais alors, là, la difficulté, c'est que dans cette décision, alors, on peut, voilà, volontairement, il y a une case que je dois cocher, je le fais pas, bon. Après, il peut y avoir aussi de l'incompréhension. Ça existe, hein, ce serait pas sérieux de dire qu'on a affaire qu'il y a des gens de mauvaise foi et de mauvaise volonté qui sont là pour, pardon pour le terme pas joli, mais pour arnaquer éventuellement l'établissement bancaire.
Ouais.
Il peut y avoir aussi des documents mal remplis sans intention de nuire ou sans intention de mentir, et dans cette décision qui a été rendue, c'est-à-dire que même si vous avez entre guillemets pas fait exprès, eh ben tant pis pour vous, vous assumerez quand même l'erreur qui a été commise. Donc il y a plus de pardon ou de tolérance. Donc à partir du moment où il y a une erreur, alors qu'elle soit volontaire ou pas, tant pis, vous serez sanctionné. Et c'est ça qui est assez terrible, et c'est là où on passe quand même un petit cap.
Maître Serraner est avec nous jusqu'à donc 10h. Si vous avez des questions juridiques à lui poser, je vous rappelle que vous pouvez le faire en direct au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, le vendredi, c'est Maître Serraner qui est avec nous et qui répond à vos questions juridiques au 01 53 48 3000 en direct. Direction Toulouse, Maître Serraner, et c'est Nordine qui est avec nous. Nordine, bienvenue. Monsieur Nordine.
Bonjour.
Bonjour Nordine.
Bonjour Maître.
Bonjour Nordine.
C'est moi qui vous ai envoyé les documents par téléphone pour ma fille, pour le certificat de nationalité.
Alors par téléphone pour... Oui, absolument. Que je ne dise pas des bêtises, je crois que j'ai ouvert ça hier.
D'accord, voilà.
D'accord.
Si vous les avez reçus ou pas.
Oui. c'est marrant, mais c'est bien d'avoir appelé pour. Alors, je les ai bien reçus. Je m'autoriserai. Parce qu'après, je pars en audience.
On va dire. Bon, vous avez une vie, Maître Serraner.
Oui. Enfin, je peux vous dire où, c'est pas la peine. Non, ça n'intéresse personne, on s'en fout. Mais je serai dispo. Enfin, je m'autoriserai à vous appeler tout à l'heure vers les coups de 14h. Enfin, Inch'Allah, c'est Dieu nous prête vie. Voilà, vers les coups de 14h, je vous passe un petit coup de fil, mais je vous confirme, hein, j'ai bien reçu les pièces, hein, monsieur. Il n'y a pas de problème.
Voilà. Merci, bonne journée.
Merci à vous aussi, à tout à l'heure.
Merci, Nordine, c'était important. Merci, Nordine. Alors, Nasser est avec nous au 01 53 48 3000. Nasser, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour Nasser, j'ai bien reçu vos documents, je vous appellerai vers 14h30.
C'est bien.
Voilà. Allez-y Nasser, on vous écoute.
Oui, bonjour Maître Serraner.
Bonjour Nasser.
Bonjour Philippe. Ma question, donc je vais essayer d'être bref. En fait, j'ai acheté une maison il y a à peu près 2 semaines de cela. Et après, en fait, on a récupéré les clés et j'ai constaté il y a quelques problèmes concernant donc notamment la chaudière et également il y a un système d'arrosage automatique qui a été un petit peu, on va dire, je sais pas, vandalisé, où en fait il y avait des tuyaux qui ont été enlevés, coupés et la chaudière, c'est le thermostat qui a été enlevé et changé par un autre qui n'a pas été raccordé. Donc pour un temps, ça ne fonctionne pas correctement. Ce qui est bien, c'est que j'avais pris des photos avant et j'ai constaté justement ce qui a été changé.
Voilà, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous avez visité et le moment où vous êtes porté acquéreur, il y a eu, entre guillemets, du sabotage.
Absolument.
D'accord.
Et du coup, moi, j'ai informé mon notaire, donc je lui ai envoyé donc un mail avec les détails. Il l'a transmis donc aux autres notaires. Et donc, pour l'instant, on attend leur retour. Mais je voulais savoir, de mon côté, qu'est-ce que je pourrais faire, quel est mon droit.
Si vous avez l'impression que le vendeur persiste dans sa mauvaise foi et que vous avez la présence d'esprit de prendre des photos, j'allais dire, avant la conclusion de l'achat, vous avez bien évidemment la possibilité de vous retourner contre l'ex-vendeur, donc pour demander à être indemnisé de ça. Alors il faudra éventuellement, alors en dehors de le prouver, mais ça je crois que vous pouvez le prouver sans difficulté, si vous me dites que des photos ont été prises, faudra éventuellement peut-être demander à une personne d'intervenir pour établir un devis, pour voir à combien peut se monter les réparations, et en dehors des réparations, vous avez le droit de solliciter aussi des dommages et intérêts pour le préjudice, puisqu'évidemment tout ça est navrant et pénible pour vous. Bon, si vous laissez entendre que des photos ont été prises avant, ils auront peut-être tendance, dans leur honte absolue, à reconnaître leurs bêtises et puis à essayer de régler ça à l'amiable.
Alors, sachez que dans le couple, ils sont justement pour, bah, ils sont encore de divorce, donc et s'ils se déchirent un petit peu, donc c'est un peu compliqué, sachant que il y a sa femme également qui avait son ex, on va dire, qui a confirmé qu'il y avait bien, le système d'arrosage à l'époque et que le thermostat aussi a été changé. Donc du coup, on sera deux contre un, plus les photos. Je pense qu'il y a moyen de prouver.
Alors quand vous dites deux contre un, c'est-à-dire quoi? Vous laissez entendre que l'ex, elle est plutôt de votre côté?
Absolument.
Alors il faudra quand même poursuivre tout le monde, hein?
Absolument, ah oui.
Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'après, si vraiment il n'y a pas d'arrangement entre vous, donc il faudra poursuivre tout le monde, après à charge pour l'ex ou à charge pour l'avocat de l'intéressé, elle aussi, entre guillemets, d'établir qu'elle est de bonne foi et que le méchant dans l'histoire, c'est monsieur. Mais voilà, ne vous fiez pas à une pseudo-gentillesse de madame qui vous laissera entendre que vous inquiétez pas, cher monsieur, je suis de votre côté. Ça c'est important.
Dans le sujet, ben.
Voilà, vous poursuivez tout le monde. Après, si effectivement elle reconnaît la chose, ou en tout cas si elle pointe du doigt l'ex en disant bah oui c'est monsieur qui a fait ça, et bah tant mieux, c'est un bon point pour vous. Mais bon, je le redis, à partir du moment où vous savez ce qui est très difficile, c'est l'apport de la preuve. La nature humaine étant de mauvaise foi, si vous avez pas de preuve, je peux moi nier en disant mais attendez, c'est n'importe quoi, c'était déjà comme ça auparavant. Mais à partir du moment où vous avez des preuves et si en face et notamment monsieur n'est pas trop pénible ou trop débile, il pourrait se dire bon bah d'accord, pardon pour l'expression mais j'ai fait le con et puis voilà, on va rectifier tout ça ou éventuellement indemniser. Ça peut se jouer comme ça sans aller devant les tribunaux. Maintenant, si vous n'avez pas de réponse de la partie adverse ou si il y a une réponse qui est un concentré de mauvaise foi, vous pourrez le poursuivre sans aucune difficulté. Je vous dis très souvent, la matière, c'est la preuve qui est difficile à apporter, mais là, ça me semble carré pour vous.
D'accord. Et du coup, est-ce que le notaire peut prendre des mesures, justement, sachant qu'on a déjà séquestré la taxe foncière parce qu'il y avait des encombrants qui ont été retirés? Donc là, c'est en cours de procéder aux enlèvements des encombrants. Mais du coup, est-ce qu'on peut éventuellement garder cette somme-là pour le préjudice?
Non, il n'y a pas. Non. Encore une fois, alors ça, je peux l'entendre et le comprendre en disant bon, bah voilà, comme ça, ce sera ce qu'on appelle en droit un système de compensation. Mais ça signifierait que vous êtes en train de vous faire justice vous-même. Alors je peux comprendre, hein, c'est assez frustrant de dire mais attendez, celui qui entre guillemets se fait avoir dans l'histoire, c'est moi et donc la victime c'est moi. Mais vous pouvez pas tout seul dans votre coin dire je vais procéder à un système de compensation.
Non, avec l'accord du notaire évidemment. C'est ça que je vous dis, c'est une action.
Ouais, non, mais le notaire il peut pas prendre ce genre de responsabilité. Imaginez deux secondes encore une fois que il y a un procès et que vous perdiez. Bah oui, c'est l'une des hypothèses. On peut gagner ou on peut perdre. Donc le notaire, il peut pas, même si vous lui montrez les photos et même s'il vous dit ce que je suis en train de vous dire là, ça me semble moi carré de votre côté. Pour autant, si vous avez pas entre guillemets l'accord de la partie adverse, qui pourrait dire bon bah voilà, on peut trouver ce système de compensation, mais c'est un accord amiable. Mais si il y a pas de feu vert de leur part pour un accord amiable, non, vous pouvez pas et le notaire encore moins, tout seul dans son coin. Dire je décide que. Non, le notaire prendra pas ce risque. Le notaire vous dira, monsieur, s'ils sont de mauvaise foi, bah dans ce cas-là, vous pouvez les poursuivre et c'est seulement à la suite d'un jugement, donc à la fin du procès, que vous pouvez éventuellement obtenir réparation. Mais à ce stade-là, non, le notaire prendra pas ce risque-là et je peux le comprendre et juridiquement, il serait en faute. Hein.
D'accord. Bon. Ok, entendu.
Voilà.
Parfait. Je vous remercie.
Merci à vous.
Merci Nasser pour votre question. Et c'est Nadia qui est avec nous au 01 53 48 3000. Malika, qui est très très loin. Malika. Oui.
Oui, bonjour.
Bonjour Malika.
Oui, bonjour Philippe. Bonjour l'avocat. Bonjour tout le monde.
Eh bien Malika, je vais partager un secret avec vous.
Merci.
L'avocat s'appelle Maître Serran.
Ouais, c'est ça, parce que juste dire bonjour à l'avocat, ça veut dire que mon nom, vous l'avez oublié. Ouais, ça s'en est presque vexant, donc on va raccrocher immédiatement.
Non, Maître Serran, gentil.
Ah bon?
Gentil.
Alors Malika, allez, on vous écoute.
Gentil.
Non, mais bon, quand même. Allez, Saha Malika, on vous écoute.
Philippe.
Malika.
Oui, Philippe, toujours. Je dors avec toi.
Ah, ça va.
Le soir, le radio, me referme le matin, tous les jours.
Voilà. D'accord. Voilà. Non, mais juste une explication. Vous dormez avec Philippe. Oui. Vous l'écoutez.
On dort à la radio.
Oh, non,
ah bon?
Oh,
on a le chétan. J'ai eu peur pendant deux secondes, Philippe.
Oh,
d'accord.
Non, je dors avec la radio.
Ah bon? Faire. D'accord. Mais ouais, mais faut le préciser, Malika. Ça peut créer des litiges, ça.
Ouais.
Hein.
Pardon. Ouais. Par contre, maître.
Oui, Malika. Je suis désolé, hein, Philippe, il fait des têtes pas possibles. Dites-moi, Malika, je vous écoute.
Maître, moi, je fais la demande pour pension. Pension validité.
D'accord.
Comme c'est bon pour moi, moi, je peux, la première fois, je fais l'avocat.
D'accord.
Ouais.
Et comme c'est bon, j'ai passé avec la sécurité sociale, c'est bon, ils donnent le papier. Et le médecin de travail a donné le papier. Par contre, l'avocat toujours a demandé les papiers.
Alors, votre avocat à vous ?
Comment ?
C'est votre avocat.
Voilà.
D'accord,
voilà.
Donc il vous demande des papiers.
Par contre, tous les jours, j'ai parlé avec lui au téléphone, il dit ça y est, c'est bon, mes papiers tout réglés. Il dit non, ramène-moi la fin droite à la suki, ça et ça. Je ne sais pas comment faire.
Alors, Malika, j'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire que, alors, c'est votre avocat.
Voilà,
vous l'avez, d'accord. Donc, vous avez été le voir pour lui dire j'ai une histoire un problème de pension, et donc vous lui demandez, vous prenez l'avocat pour ça.
Voilà.
Il vous demande des documents.
Oui, voilà.
D'accord. Qu'est-ce qui vous embête là-dedans? Enfin, je suis le premier à demander des documents à mes clients. C'est qu'est-ce qui pose problème? Pourquoi est-ce que vous tiquez là-dessus?
Oui, ça y est, c'est bon maintenant. La sécurité sociale, c'est
d'accord,
bon.
C'est-à-dire que, alors vous avez pris l'avocat pour obtenir des droits, et là vous me dites que les droits, vous les avez obtenus.
Voilà.
Donc vous n'avez plus besoin de l'avocat.
Voilà, très bien. Voilà.
Bon, alors est-ce que vous lui avez dit que le dossier était réglé, que vous n'avez plus besoin de l'avocat?
Oui, voilà.
Bon, alors quand vous lui dites ça, il vous dit quoi?
Il dit non, j'attends le papier.
L'avocat, il dit ça, c'est la réponse de l'avocat. Ça.
Alors est-ce qu'il est-ce qu'il se dit peut-être...
Philippe, attends, pardon. Philippe, comme moi j'ai demandé, j'ai payé ma moitié et l'État il est payé pour lui moitié.
D'accord, c'est ce qu'on appelle une aide juridictionnelle partielle. Voilà.
C'est pour ça, lui il veut pas lâcher moi. Il dit comment régler avec elle. Je sais pas.
D'accord, c'est-à-dire qu'alors. Pour que les auditeurs comprennent.
Ça, c'est intéressant, c'est un élément qu'on n'a pas toujours.
C'est vrai.
De savoir comment fonctionne l'aide juridictionnelle.
On pourra, disserter là-dessus à une prochaine émission, mais c'est vrai que là, si je vous comprends bien, vous avez une aide juridictionnelle partielle. Ça signifie qu'il y a une partie que vous réglez.
Voilà.
Donc, il y a une partie qui vient de votre poche, et le reste, il vient de l'État.
Voilà,
On est, en qualité d'avocat, indemnisé à partir du moment où il y a une procédure qui a été engagée. Mais là, je crois comprendre que vous avez même pas eu besoin d'engager une procédure puisque ça s'est arrangé avant. Allô, Malika ?
Oui.
Ah d'accord. Oui, alors est-ce que c'est ça ? C'est-à-dire que vous avez pas, il n'était pas utile d'aller devant un tribunal et d'obtenir une condamnation. Ça s'est arrangé avant.
Oui, mes papiers, ça fait presque un an et traîné chez lui tout le temps.
D'accord.
J'ai dit, attends la réponse.
Mais
et moi, j'ai réglé à côté.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que la réponse, c'est pas un tribunal qui vous donne raison, ça s'est réglé sans aller devant un tribunal.
Voilà.
D'accord. Eh ben oui, donc il est insistant pour se dire, zut, ça s'est réglé devant un tribunal, sans passer devant un tribunal, et donc il sera pas indemnisé. S'il n'y a pas eu de procès, il sera pas indemnisé. Donc
c'est pour ça qu'il est insistant.
C'est pour ça qu'il est insistant, pour, entre guillemets, justifier qu'il a ou qu'il aurait fait quelque chose, et donc demander à l'État de l'indemniser. Mais vous l'avez déjà payé en partie.
Oui, ça y est, j'ai payé tout.
Ouais, c'est encore une fois, vous savez, à partir du moment, madame, où vous me dites que le problème
non,
a été...
Je n'ai pas demandé l'argent. C'est pas
Non, mais j'ai bien compris.
Moi,
non,
j'ai demandé, laisse-moi tranquille.
C'est ce que j'allais vous dire. J'ai bien compris. J'ai bien compris que vous n'êtes pas en train de dire, tiens, il faut qu'il me rembourse.
Non, j'ai pas demandé.
Madame,
c'est pas beaucoup, j'ai payé juste 300 euros.
Oui, bah après, c'est le système d'aide juridictionnelle, hein, donc c'est, voilà, c'est comme ça. Hein.
J'ai pas demandé, il paye pour moi moitié ou la réponse.
J'entends bien, j'ai rien dit,
laisse-moi tranquille.
Bon, bah alors écoutez, madame, pour qui vous laisse tranquille, à partir du moment où votre problème a pu se résoudre et se terminer grâce à vos démarches et pas aux démarches de l'avocat, et ben vous lui confirmez ça quand même par écrit éventuellement. Vous l'avez fait ça ou pas? Vous lui avez envoyé un courrier, un mail, enfin il y a une trace écrite?
Non, par téléphone.
Non, alors c'est bien de le faire par téléphone, mais c'est mieux de le confirmer derrière par un courrier alors recommandé à R ou alors par un mail.
D'accord.
C'est important. Et puis, si vous avez l'impression, madame, qu'il continue à vous embêter alors que, officiellement, pour vous, l'affaire est terminée, il y a une personne que vous pouvez éventuellement saisir, c'est le bâtonnier de l'Ordre des avocats, donc qui, c'est dans sa mission, dans sa fonction, et il dira, comme dirait l'autre, qui a tort, qui a raison. Mais confirmez à cet avocat par écrit, c'est important, que votre litige n'a plus lieu d'être et que votre problème est terminé.
D'accord, maître.
Voilà, Malika.
Merci beaucoup. Ouais.
Merci à vous, Malika, pour votre appel.
Bon week-end. Merci.
Bon, Malika, merci en tout cas pour votre appel.
Merci.
Et gros bisous.
Merci, au revoir.
À bientôt. Merci. Et dans un instant, donc, la suite de vos questions à maître Serran. Si vous voulez l'interroger, vous profitez de la pause pour appeler le standard 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, maître Serran, fermez la fenêtre.
Ah ouais, il fait froid, là. Hein, ça...
C'est ça, vous choisissez. C'est le Covid ou on aère.
Non, c'est vrai. Non, on aère.
On aère. Bien, 01 53 48 3000. Nous avons Lagdar qui nous appelle. Lagdar, il doit être pistonné par la standardiste, je pense.
Ah ouais?
Lagdar d'Oran. Lagdar. Monsieur Lagdar.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, Lagdar.
Bonjour.
Comment que ça va? Ça va bien?
Bien, et vous?
Ça va très bien. Bonjour à Monsieur Serran.
Bonjour Lagdar.
Oui, Monsieur Serran, s'il vous plaît.
Dites-moi. Allez-y Lagdar.
Allô?
Oui, allez-y, allô? On vous écoute.
Oui, bonjour maître.
Bonjour Lagdar.
Maître, j'ai parlé dernièrement avec vous. Je vous avais dit que je vous cherche depuis 2 ans.
Et vous cherchez quoi, Lagdar?
Ouais, mes cheveux.
Je voulais des renseignements.
Je cherche mes cheveux.
J'avais une affaire à Paris.
Ouais.
J'aurais voulu qu'il me défende, mais maintenant... Ça y est, c'est passé, j'ai réglé mon problème.
D'accord. Bon, est-ce que vous avez obtenu gain de cause? C'est ça qui est important.
Oui, voilà.
D'accord.
Vous communiquez votre numéro de téléphone, mais vous ne répondez jamais, monsieur.
Ouais, mais c'est parce qu'en fait, vous ne devez pas être sympa. Déjà, la manière dont vous me parlez, je trouve ça gonflant. C'est peut-être pour ça que je ne vous ai pas répondu, Lagdar.
Oh, c'est gentil de votre part, alors.
Non. Alors, Lagdar, envoyez.
On ne cherche pas depuis 2 ans, Lagdar. Il faut être sérieux 2 minutes.
J'ai parlé avec vous, déjà, vous m'avez
appelé. Oui, et depuis 2 ans.
Depuis 2 ans que je roule, même à la fin de l'année 2019, vous avez programmé un voyage à Razaouet. Je suis même venu à Razaouet.
Ah ouais, non, mais d'abord, alors c'est peut-être pour ça que je vous ai évité, Lagdar. Moi, quand je vais à Razaouet, c'est pas pour nous éviter. Lagdar, Nahal Chetan, quand je vais à Razaouet, c'est pas pour aller voir Lagdar.
Non, je sais que vous allez voir votre famille.
J'ai?
Alors, excusez-moi si je me suis pris un peu.
Mais non. Mais allez, Lagdar, ce qui est important, c'est quoi? Alors, bon, allez, on va dire, parce que sinon, vous allez peut-être nous faire une crise. Je dois être fautif, je vous ai pas rappelé. Vous avez obtenu gain de cause.
Oui, ça y est.
Bon.
C'est mon problème.
Bah, vous voyez.
À chaque fois que je vous appelle, vous répondez pas, jamais. Alors, je suis pas le seul, vous répondez à personne, alors.
Lagdar, c'est ce que vous avez fait.
Enfin, Lagdar, si vous m'avez appelé juste pour...
Non, mais envoyez un SMS à Maître Serran, et puis vous avez rappelé.
Non, Lagdar, vous m'envoyez ni SMS, ni mail, et je veux pas vous voir à Razaouet. Et ni à Oran.
Sinon, je dis à Georges. Si Maître Serran vous parlait comme ça, Lagdar, je demande à Georges qui vous appelle.
Bon, d'accord, alors.
Non. Vous répondez à Lagdar la prochaine fois?
Mais j'ai plus besoin de lui répondre puisque son problème est résolu.
Mais si, il a besoin de vous encore, Lagdar.
À moins qu'il ait d'autres problèmes, mais bon, on va pas lui souhaiter des problèmes. On va pas lui souhaiter des problèmes pour qu'il m'appelle quand même. On peut juste se voir. Voilà, on peut juste se voir sans problème ou discuter sans problème. C'est aussi possible.
Lorsque vous venez à Orange, vous faites le tapis rouge.
Eh ben, écoutez, alors ce que je vais faire, si Dieu nous prête vie et comme dirait l'autre, et si ces histoires de frontières sont terminées, en tout cas ces problèmes-là, le jour où je retourne à Razaouet, je ferai un saut avec plaisir à Oran et je m'autoriserai et je le promets encore une fois si Dieu nous prête vie, je m'autoriserai à vous appeler. Alors hors antenne, même si vous me dites que vous avez appelé depuis 2 ans, hors antenne, si ça vous ennuie pas, vous m'envoyez un petit numéro de téléphone.
Voilà.
Et on se fera un petit tête-à-tête tranquille à Warren.
Allez, d'accord.
Alors, c'est pas vous qui êtes charcutier à Oran ?
Ah bon ?
Comment ?
C'est pas vous qui êtes charcutier à Oran ?
Comment vous savez ça, que je suis charcutier ?
Bah, écoutez, Lagdar, on se parle, vous et moi.
Jamais parlé.
Vous êtes charcutier à Oran, Lagdar ?
C'est juste, oui.
Voilà, c'est fou, ça. Voilà. Vous connaissez Lagdar mieux que moi, quoi.
Charcuterie industrielle. Hein.
Mais je le sais très bien.
Ah bon ?
Je connais Lagdar.
Oh, c'est dingue, ça me souffle.
Ben, j'ai une oreille.
Ouais,
j'ai une oreille.
Mais vous faites dans le halal pur ou que du halal ?
Il n'y a pas de halal.
C'est que du halal.
Ah, c'est que du halal.
Il n'y a pas de halal chez nous, M. Serran. Alors, M. Serran, il n'y a pas du halal chez nous.
Mais il y a des sangliers quand même, non ? Moi, je connais beaucoup de gens qui mangent du halouf, Lagdar. Enfin, voilà, on n'est pas en Arabie Saoudite non plus. Hein.
On ne mange pas des sangliers chez nous. On mange que du veau.
Ben, vous rigolez.
Bon, mais moi, je connais la charcuterie
algérienne.
Non, je connais la charcuterie de Lagdar. Je mange pas très bien.
Mais je sais qu'il y a des Algériens, c'est des amoureux du halouf. Enfin, on peut dire ça quand même. Ou alors, l'Algérien est au-dessus de tout.
C'est des Algériens qui résident en France.
Il y a beaucoup d'Algériens en France qui mangent pas de halouf et des Algériens au bled qui mangent du halouf. Ouais, c'est pas parce qu'on est Algérien en Algérie qu'on est doué de toutes les qualités quand même. Enfin,
bon, Maître Serran, taisez-vous.
Non, mais je vous assure.
Taisez-vous.
D'ailleurs, à Razaouet, il y a des sangliers qui se baladent et on a vu. Non, mais je vous assure, c'est vrai. Et j'ai vu des types avec des fusils de chasse qui leur tiraient dessus, pas pour les jeter à la mer. Pour ensuite les découper et se faire des brochettes de halouf. Non, mais c'est ce que je viens de vous dire, pour ne pas les jeter à la mer.
Non, c'est les Chinois qui les récupèrent.
Oh, là, je vous parle du temps, il n'y avait pas de Chinois à l'époque en Algérie, Lagdar, quand même. Enfin, comme là, j'avais 8 ans à l'époque, il n'y avait pas de Chinois.
Bon, c'est quoi Lagdar ? Donc, Maître Serran a promis que si vous lui envoyez votre numéro de téléphone,
on l'a avec plaisir,
de parler avec vous. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir, Lagdar.
Merci,
bonne fin
de journée, bon week-end.
Merci Lagdar, à bientôt Inch'Allah.
Au
revoir Lagdar.
Demandez-moi, j'ai une petite agence.
Non mais c'est un truc de fou, quand vous savez qui...
Ouais, comme ça.
Ah, ça me souffle.
Bah, j'ai une agence, j'enquête.
Donc c'est le seul type qui vend du halouf en Algérie alors.
Mais il vend pas de halouf.
Ah zut,
bon,
j'ai cru comprendre
tiens,
ça.
On a Ilham, Maître Serran, qui est avec nous au 01 53 48 3000. Ilham, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Ilham.
Bonjour, alors j'ai une question pour l'avocat, si c'est possible.
Non.
Non,
Ilham. Non, Ilham, merci Ilham. Non,
mais,
avec plaisir,
alors.
Avec plaisir.
Mais non, avec plaisir.
Mais bien sûr.
Il est grincheux.
C'est bon, ça fait un peu vieux con là, non ?
Ouais, t'es grinche, hein ?
Ouais, je suis un peu vieux con.
Allez, arrête de grincher.
Ouais, j'arrête.
Allez, Ilham, c'est un plaisir, on y va.
C'est gentil. Alors, j'ai un appartement que je l'ai loué en janvier l'année dernière à une connaissance. Et elle m'a payé le loyer 2-3 mois. Après, il y avait un problème personnel entre moi et elle. Et elle a arrêté de me payer le loyer. Je n'ai pas envoyé une lettre pour lui dire « sors de la maison » ou quoi que ce soit, parce que je ne voulais pas mélanger entre mes problèmes personnels.
On peut comprendre, c'est délicat, on peut comprendre.
Voilà, je ne mélange pas les choses parce que c'est un projet que j'ai fait. Je voulais faire des projets, m'investir sur l'achat des appartements et les louer.
D'accord.
Alors, je voulais pas mélanger les choses. Si elle me payait le loyer, je mélange pas entre mon problème personnel et mes affaires. Je suis restée jusqu'à mois de septembre. Quand j'ai vu qu'elle ne me paye pas le loyer, je suis partie voir un avocat. Il lui a envoyé le site justice juste pour lui dire voilà, il faut payer.
Ouais, on appelle ça un commandement de payer.
Exactement.
Ouais.
Elle a fait la morte. Elle n'a pas répondu, rien du tout. Après, on était obligé de saisir le tribunal. Là, on est passé au tribunal le premier. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que c'est un appartement meublé. Mon avocat, il m'a dit si elle se présente, mais sans avocat, normalement, l'affaire, elle va être réglée tout de suite parce qu'elle ne paye pas son loyer. Moi, je ne voulais pas la faire sortir. Si elle paye son loyer, moi, ça m'arrange. Hein. Ce que je n'arrive pas à comprendre, que le juge, il a reporté l'audience jusqu'au 3 mai. Et il lui a demandé d'y aller voir un avocat quand même. Après, elle a raconté un petit peu des mensonges par rapport à mon problème personnel.
Ouais.
Que je trouve pas ça normal que le juge y prend ça en considération parce que c'est des problèmes personnels. On peut pas mélanger entre les deux. Et il a reporté
Alors, il y a mille et une raisons de reporter une affaire. Alors, c'est difficile de vous répondre comme ça. C'est-à-dire que... peut-être, j'en ai aucune idée, mais peut-être qu'elle a demandé l'aide juridictionnelle. Est-ce que c'est ça qui a justifié le renvoi ? Non, elle a juste dit.
Le juge lui a demandé d'y aller voir un avocat et faire la demande de l'aide juridictionnelle.
Ah ouais, alors,
et
madame.
Voir,
d'accord. Mais
autre chose avant que j'oublie.
Dites-moi.
Elle a dit comme quoi elle m'a donné deux loyers en espèces et qu'elle a les preuves. Et quand il est sorti, mon avocat, après l'audience, parce que moi, je suis pas partie comme je travaille.
Ouais.
Quand il est sorti, mon avocat, il lui a dit, si vous avez les preuves, il faut me les envoyer. Et elle lui a dit, au final, moi, j'ai pas les preuves. Juste, j'ai dit ça.
Oui,
en fait, je pense qu'elle est très intelligente pour gagner du temps.
Ouais, enfin bon, je sais pas, vous savez, on peut essayer de gagner du temps, mais au bout d'un moment, le temps vous rattrape. Donc...
Ah, moi, j'ai une question, tiens. Ouais. Est-ce qu'on a le droit de payer son loyer en espèces? C'est pas illégal.
Non, c'est pas illégal.
C'est
non.
pas illégal.
Après, non,
c'est
pas illégal, après ce qu'il faut. Hein, moi, je lui
non,
dis qu'elle me paye soit en chèque, soit en Vermont.
Non, mais,
et
madame.
J'ai tous les preuves sur mon compte.
Ouais, mais même si elle vous paye en espèces, à partir du moment où vous lui remettez un justificatif, il n'y a pas de difficulté. C'est pas interdit. Voilà. Mais à partir du moment où, même si demain après-demain elle dit au juge, mais j'ai payé en espèces, c'est à elle de prouver qu'elle a payé. Vous voyez, donc il y a pas de difficulté là-dessus. Maintenant, je crois comprendre que, alors même si c'est pas une demande, mais de l'intéresser, mais en règle générale, madame.
Oui.
Le juge tout seul, il dit pas à quelqu'un, écoutez, je vous conseille de prendre un avocat, que ce soit à l'aide juridictionnelle ou pas. C'est l'intéressée elle-même qui, lorsque l'affaire a été appelée, qui a dû dire au magistrat, écoutez, j'envisage ou j'ai déposé un dossier d'aide juridictionnelle et à partir de là, on appelle ça les droits de la défense, même si c'est pénible pour vous, à partir de là, le magistrat donc a renvoyé l'affaire et à la prochaine audience, entre guillemets, il y aura plus de renvoi. C'est-à-dire que ça doit être le seul et ultime renvoi qu'il lui a accordé. Donc, soit, à ce moment-là, elle vient avec son avocat et puis, tant mieux. Soit, pour une raison X ou Y, elle n'a pas d'avocat. Et le magistrat retiendra l'affaire quand même.
D'accord. C'est-à-dire, la prochaine fois, elle vient avec l'avocat, elle vient pas avec l'avocat. Et c'est quoi qui va changer si elle vient avec l'avocat?
Après, comme dit l'autre, je ne sais pas quelle est la stratégie qui sera développée par l'avocat. Mais d'abord, vous savez, parfois vous avez des, même quand vous avez l'avocat, l'avocat il vient pas avec des arguments nouveaux. C'est-à-dire que si cette femme ne vous a pas payé, il y a rien qui justifie le non-règlement, qu'elle prenne un avocat ou pas. Entre nous, ça change rien. Si ce n'est que pour elle, elle a gagné un peu de temps. Donc parfois, quand vous avez des personnes qui arrivent à l'audience. Donc le jour de l'audience et qui disent écoutez j'envisage j'ai déposé un dossier d'aide juridictionnelle, souvent c'est pour gagner du temps.
Mm-hmm.
Bon, mais c'est comme ça, les droits de la défense s'appliquent aux uns et aux autres, et donc le magistrat lui a accordé ce délai pour avoir cet avocat. De toute manière, si elle a un avocat, il entrera en contact avec le vôtre. Et puis votre avocat vous dira, voilà, l'avocat de votre locataire a développé tel ou tel argument. Est-ce que c'est des arguments sérieux ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais parfois, quand on demande l'aide juridictionnelle à dernière seconde, c'est pour gagner du temps, quoi. Bon, on appelle ça la mauvaise foi, mais c'est la nature humaine, hein.
D'accord, mais et là, si le 3 elle se présente, c'est-à-dire avec son avocat, et elle a rien à dire, elle a 10 000 euros quand même.
Ça ne changera rien, madame. C'est-à-dire que si effectivement c'est carré de votre côté, elle vous doit de l'argent, il n'y a rien qui justifie qu'elle ne vous paye pas, Alors, le rôle de l'avocat, ce sera quoi, là? Il va, entre guillemets, essayer de lui trouver des excuses. Il peut éventuellement dire au tribunal, écoutez, ma cliente va régler en plusieurs fois et donc ne pas résilier le bail. C'est-à-dire que le juge, il peut dire, madame, je ne vous expulse pas si vous respectez la parole donnée à l'audience. C'est-à-dire que vous payez, en plus du loyer en cours, vous payez en plusieurs fois pour mettre fin à cette dette. Donc, l'avocat peut avancer ces différents éléments.
Mais le bail, il n'est pas renouvelé. Hein. Le bail, moi, j'ai fait un bail d'un an et c'est terminé mois de janvier.
J'entends bien, sauf que, encore une fois, même si c'est un bail d'un an, et quand on est, encore une fois, de très mauvaise foi...
C'est un appartement meublé, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai que c'est une année. Meublé, donc, même si elle ne quitte pas les lieux, c'est une procédure d'expulsion qui devra être faite. C'est-à-dire que, dans le meilleur des mondes, au bout d'un an, on dit, bon, ben, on peut éventuellement renouveler, ou alors on dit, ben, c'est terminé, je rends l'appartement. Mais elle peut se dire, ben, moi, je vais rester jusqu'à ce que vous meniez la procédure d'expulsion jusqu'au bout. Ce qui peut prendre plusieurs mois, pour pas dire années.
Une année encore?
Ah, peut-être un peu plus.
Plus qu'un an.
Ah oui, mais celui qui veut être chiant quand il fait du droit, il peut se maintenir longtemps dans un appartement.
Oh là là.
Ouais, vous voulez les coordonnées de mon ami Nico? Qui peut effectivement...
Oui. Si on pouvait changer de prénom, ça m'arrangerait. Maître Serran a un ami qui rend des services.
Qui rend des services. Alors,
sur les gens pénibles.
Oui, voilà. Oui, il peut lui péter les rotules si vous souhaitez. Mais je suis avocat, j'ai pas le droit de dire ça.
Je rigole.
Mais vous avez bien compris que, oui, madame, c'est-à-dire que même si le juge dit à cette femme, vous devez quitter les lieux, c'est-à-dire même s'il l'expulse, il y a encore des démarches et un délai, qu'elle peut mettre en avant et donc elle peut encore se maintenir longtemps. Ouais, oui, je sais, je suis navré de vous dire ça.
Ce que je vous propose, c'est de noter le numéro de Maître Serran.
Oui.
Voilà, comme ça, vous pourrez l'appeler après l'émission.
Bon, je lui donne les coordonnées de qui vous savez.
Oui.
Donc, je suis joignable au 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
64, ok.
Voilà, merci pour votre appel.
Vous appelez à quelle heure?
Alors, vers les coups de 14h, le temps que... Voilà, à partir de ce moment-là, je serai dispo, puisque là, je me sauve au tribunal.
Voilà, merci, Ilham, pour votre question. Maître Serran, on vous retrouve vendredi prochain.
Avec plaisir.
Voilà, dans un instant, lui au moins n'est pas grincheux. L'imam Abdelali Mamoun sera avec nous.